D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Il s'appelait Benjamin Disraeli. C'était en 1868. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, un juif devenait chef de gouvernement d'un pays. Cela s'est bien passé pour trois raisons sans doute. La première est que le pays en question, où avait été créée une des pièces de théâtre les plus anti-juives qui soient, Le Marchand de Venise, par ce cher Shakespeare de la naissance de qui nous célébrons le 400e anniversaire ces jours-ci, ce pays n'était peut-être pas si forcément antisémite puisqu'il avait eu des députés juifs depuis 1770. La deuxième raison est que, juif, Disraeli s'était converti à l'anglicanisme. La troisième, et la principale peut-être, est qu'il était de droite. Quand on est d'une minorité, il faut souvent faire allégeance aux forces du conservatisme pour survivre. En 1922, Walter Rathenau, le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, avait été assassiné principalement parce qu'il était juif. 14 ans plus tard, Léon Blum devient le premier chef de gouvernement authentiquement juif d'un pays occidental et de quelque pays que ce soit, sauf erreur. Il a été attaqué parce qu'il était juif, bien sûr. À la Chambre des députés, certains dont le nom demeure parce que l'ignominie fascine le monde l'ont injurié à la tribune où il a calmement répondu qu'être traité de juif ne pouvait être considéré comme une insulte. C'était entre autres par un député devenu plus tard, sous Vichy, commissaire général aux questions juives, curieuse appellation bien caractéristique de l'hypocrisie administrative, et on sait quelle réponse on a donnée aux questions que les juifs ne posaient pas. Ce qui est intéressant, et peut-être moins connu, est que Léon Blum a aussi été attaqué comme esthète, comme intellectuel, comme littérateur. Quel est le secret professionnel de Léon Blum, écrivain ? À l'occasion du 80e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Front populaire, je reçois pour en parler Pierre Birnbaum, professeur de sociologie politique à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'études politiques de Paris, qui publie aux éditions du Seuil « Léon Blum, un portrait ». Pierre Birnbaum, est-ce que Léon Blum venait d'une famille particulièrement lettrée ?
Pas du tout. Il est donc originaire de d'Alsace-Lorraine. Il appartient à une famille de petits artisans, de petits commerçants, qui quittent leur province occupée et qui fondent à Paris une entreprise de rubans qui va prospérer et est établie du côté de la Porte Saint-Martin. Non, il n'a aucun lien direct avec le monde de la culture. Et de ce point de vue, on peut déjà, si vous voulez, souligner la différence avec Proust. Il connaîtra Proust, il fréquentera Proust, ils ne s'aimeront pas beaucoup. Proust sera très méprisant à son égard, mais Proust, justement, appartient à la bourgeoisie juive. Il fréquente les guermantes et les ducs et les barons. Blum est totalement éloigné de ce milieu de l'aristocratie et de la bourgeoisie juive. D'ailleurs, il n'habite pas plein de Monceau. Il n'habite pas comme plein de Monceau comme Proust. Il habite dans le troisième arrondissement, pas très loin du Plaid-Seul où étaient les émigrés. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est grâce à la méritocratie républicaine qu'il rejoint Proust. Non, on peut pas dire ça. Mais qu'il rejoint le monde des lettres, puisque, à travers de bonnes études secondaires, il entre à l'école normale supérieure. Donc, c'est la voie royale vers les lettres à l'époque. Et c'est là où finalement il se frotte à la littérature et c'est là où sa première vocation va naître, celle d'être un écrivain, celle d'être un homme de théâtre, celle d'être un esthète. Il va fréquenter les milieux de la littérature et s'imposer très vite donc comme une des plumes les plus brillantes de critique théâtrale. Il va lui-même écrire de très nombreuses nouvelles qui sont peu connues et qui méritent le détour, très savoureuses, pleines d'ironie, qui seront publiées dans des tas de revues. Et certains ont même été jusqu'à dire, si vous permettez de l'ajouter, que la première phrase la plus célèbre de « À la recherche du temps perdu » aurait été volée, prise dans un écrit antérieur de Blum.
Et quelle serait la phrase de Blum, vous vous en souvenez ?
Quasiment la même.
Longtemps je me suis
couché
de bonheur.
Oui, quasiment la même, en hommage à sa mère, puisque Blum était très attaché à sa mère, exactement comme Proust, exactement comme tous les petits juifs et comme tous les hommes de la terre, mais peut-être eux plus particulièrement. Et certains ont dit, certains ont écrit qu'en effet, il y a de fameux rapprochements, on peut faire de fameux rapprochements entre ces deux phrases.
Alors, vous parliez de l'école normale supérieure, je crois qu'il faut préciser pour la justesse, l'exactitude historique, il n'y est pas resté très longtemps, n'est-ce pas ?
Ah, vous êtes perfide tout de suite, mais en même temps, vous avez raison. Il n'y reste pas longtemps, mais c'est assez délibéré de sa part. C'est-à-dire, on pourrait croire que c'est parce qu'il n'est pas capable. Il déteste ce monde et il est rarement là. Il préfère les bals, il préfère la société brillante, il préfère les salons. Et donc, il manque à beaucoup de cours et il est réprimandé par l'administration qui, au bout d'un an, trouve quand même qu'il exagère et qui dispense d'une assiduité minimale.
Donc il est exclu ?
Donc il est exclu, ce qui n'arrive pas très souvent. Et il reprend ses cours à l'université.
Et en droit, n'est-ce pas ?
D'abord en lettres. Et ensuite, il fait du droit. Et il se présente au concours du Conseil d'État. Il n'est pas reçu autant que je me souviens la première fois. Il est reçu la seconde. Et donc il va, d'une certaine manière, avoir une carrière extrêmement intéressante, comme d'autres d'ailleurs. André Spire, elle était là aussi le poète. C'est-à-dire, au fond, le travail d'un commissaire gouvernement permet quand même un certain nombre de repos, de plages horaires. Et il va pouvoir combiner un travail extrêmement méticuleux de commissaire du gouvernement, extrêmement rigoureux. Il devient l'un des grands commissaires du gouvernement, dont certaines conclusions sont encore étudiées par nous, par les étudiants aujourd'hui dans les facultés de droit. Et en même temps, il a une vie donc qui lui permet de recevoir dans ses salons de la rue Guimet et ensuite du boulevard Montparnasse non seulement les écrivains, mais aussi les poètes ou les musiciens. Donc il a une vie d'artiste, on pourrait dire.
Oui, c'est en cela qu'il diffère de ce que vous avez appelé les juifs d'État, c'est-à-dire au service de la République, et très austère. Et ce qui est intéressant, et vous le relevez dans votre livre, c'est qu'il crée aussi, peut-être que c'est spontané chez lui, un personnage d'esthète. Et il est d'ailleurs assez vite attaqué pour ça. On se moque assez de ses postures et de ses... On lui trouve des gestes féminins, enfin...
Oui, il diffère de beaucoup de la catégorie des acteurs que j'ai en effet appelés juifs d'État, qui étaient beaucoup plus raides, durs, froids, austères, républicains, enfin des genre comme les hussards noirs de la République, on les imagine dans leur austérité. Blum, pas du tout.
Comme avait pu être le capitaine Dreyfus.
Enfin, comme avait pu être le capitaine Dreyfus. Donc on a un personnage très différent, mais qui n'en est pas moins un serviteur de l'État, très attaché à la vocation de l'État, à la défense de l'État, et qui, au fond, c'est tout l'intérêt de ce personnage, combine de multiples facettes. Il est à la fois un théoricien de l'État, et en même temps un poète, en même temps, c'est lui qui écrit des dizaines, comme on le disait il y a un instant, de nouvelles. Il participe à de très nombreuses revues, il est au cœur de la vie parisienne littéraire. Il joue un rôle fondamental à la Revue Blanche, où il écrit de très très nombreux articles. La Revue Blanche, fondée par les frères Latanson, et à laquelle participe un très grand nombre d'auteurs, pardonnez-moi de le dire, de le souligner, mais c'est important dans ce contexte juif.
Oui.
Il participe à d'autres revues, comme La Conque, avec Pierre-Louis.
Qu'il a fondé lui-même.
C'est-à-dire qu'il est à l'origine d'un très grand nombre de revues littéraires, et sa plume est redoutée. Il écrit tous les soirs des commentaires, disons, des comptes rendus de pièces théâtrales qui sont tout à fait redoutés par les hommes de théâtre et par les critiques, par le public. Et certains, comme Gide d'ailleurs, ne sont très fâchés devant certaines de ces critiques. Et il y a une phrase très triste de Gide dans son journal, donc que Gide n'a même regretté. Beaucoup plus tard, il revient là-dessus, il dit que Blum lui a pardonné, mais il a une phrase terrible où il dit que Blum est un auteur juif qui ne parle que des auteurs juifs et que qu'une pièce de théâtre plaise à Blum, il faut qu'elle ait été écrite par un juif. Alors, évidemment, il connaît des auteurs juifs, il est ami de Tristan Tzara, par exemple, vous voyez. Mais on ne peut pas dire que cela...
Mais c'est faux, non ? Parce que moi, j'ai regardé ses œuvres complètes.
Bien sûr.
Où il a recueilli ses chroniques théâtrales.
Bien sûr.
Il est plus souvent question d'Alfred de Musset et de Racine et de Georges de Porterich.
Exactement.
Oui, mais ça, c'est peut-être la petite partialité de Gide à un moment donné de
bien
sa
sûr,
vie.
Bien sûr, mais qui dénote une sorte de rivalité, de préjugés quand même xénophobes qui sont légion à l'époque. Et Pierre-Louis également, au temps de l'affaire Dreyfus, va s'éloigner de Blum, puisque Pierre-Louis sera, je ne sais pas si vous le savez, Pierre-Louis sera du côté anti-Dreyfusard.
Oui.
Donc on a un monde littéraire qui d'un seul coup va être détruit dans son unanimité à cause de l'affaire Dreyfus, qui va rompre des amitiés, qui va rompre des liens très étroits. Il était extrêmement lié à Pierre-Louis pendant des années.
Et du coup, avec Valérie aussi.
Avec Valérie aussi. Et Valérie sera anti-Dreyfusard également. Il signera des textes absolument épouvantables, d'un racisme, d'un antisémitisme terrifiant. Et vous savez d'ailleurs, pour la petite histoire, que Valérie mesure les crânes à 7. Vous savez que Valérie était un adhérent des théories de la crânologie, enfin des histoires de Vacher de la Pouge. Et donc, à 7, il mesure les crânes. Enfin,
Je voudrais, Pierre Birnbaum, qu'on revienne sur un livre, car vous avez parlé de nouvelles. Vous citez des extraits dans votre livre de nouvelles inédites, d'ailleurs, dans une note en bas de page. Vous avez dit qu'il avait écrit des poèmes, mais il a aussi écrit un livre, et un livre qui, je crois, a fait du tapage en 1907, c'est « Du mariage ».
Alors, « Du mariage » est un livre inimaginable. Vous imaginez, en 1907... Ce commissaire gouvernement du Conseil d'État, qui est proche de la mouvance socialiste, il est ami de Jaurès, c'est une personnalité nationale, d'envergure nationale.
Déjà.
Ah, ben, bien sûr. Il publie un livre où il appelle, au fond, les femmes à jeter leur gourme, comme il le dit. Donc, il y a une sorte de révolution sexuelle avant les années des années 1960-80, enfin avant la fin du XXe siècle. Il appelle simplement à l'égalité sexuelle des hommes et des femmes. Au fond, c'est un livre très étrange parce que c'est un livre, au fond, qu'on pourrait prendre comme une défense du mariage.
Mm-hmm.
C'est-à-dire,
oui,
il dit, au fond, les gens divorcent. Pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Parce que il y a une inégalité sexuelle entre l'homme et la femme avant le mariage. La femme n'a pas jeté sa gourme avant de se marier. Donc, lorsque le mariage se fait, il y a une injustice, il y a une inégalité, et donc il y a tromperie, et donc il y a adultère, et donc il y a divorce. Évidemment, le livre est choquant. La France catholique, la France réactionnaire, et pas seulement elle, se lève de dégoût. Des pages entières paraissent un peu partout.
Pardon de vous interrompre, parce que je me trompe si je dis que ça fait un scandale du même ordre que vous parliez des années 50 et 60, que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir?
À mon avis, le scandale est peut-être plus grand, mais ne touche pas le même public. Enfin, le scandale touche, je dirais, Blum est au cœur de la vie mondaine, de la vie intellectuelle. C'est pas exactement le cas de Simone de Beauvoir. Tout de même, elle est très connue, mais tout de même pas. Si vous regardez un peu la presse de l'époque, les écrits de l'époque, il y a une dénonciation mais quotidienne dans des la presse est gigantesque, elle se vend par millions d'exemplaires, on trouve des caricatures et à nouveau l'antisémitisme apparaît très vite. Au fond, c'est Blum le juif qui vient pervertir nos femmes catholiques,
vous voyez. Est-ce que vous croyez que ce sont des choses qui sont très spécifiquement dues premièrement à l'époque, deuxièmement au fait que Blum était très visible et donc la visibilité entraîne des attaques, ou bien est-ce que ça aurait été impossible dans les années quand Henri Heine écrivait en 1840, par exemple? Ou est-ce que ce sont des attaques éternelles ou c'est une crispation très particulière de l'époque et de la France?
C'est une époque qui succède de très peu à l'affaire Dreyfus, qui n'est toujours pas terminée, vous voyez.
Enfin, qui vient d'être terminée.
1906. Oui. Le capitaine est innocenté en 1906. On est en 1907. Vous imaginez ce bonhomme qui fait paraître du mariage en 1907, alors qu'il a été, non pas un des héros de l'affaire Dreyfus, mais il a participé de manière très, très constante à la défense du capitaine comme juriste. Il a rédigé des textes pour Le Blois. Il a été vraiment très partie prenante du conflit en faveur de Dreyfus. Donc on est à un moment où le contexte antisémite de l'affaire Dreyfus est encore très prégnant dans la France de 1907. Les passions sont très vives.
Oui, c'est-à-dire qu'après l'armée, il attaquait le mariage.
Et après l'armée, il attaque le mariage. Inimaginable.
Et lui a répondu à ces attaques, il est resté, j'ai l'impression qu'il est resté toujours très en retrait.
Oui, il ne répond pas du tout. À ma connaissance, je ne crois pas me souvenir qu'il ait jamais répondu, non. Il passe, il fait autre chose et il va s'engager très vite, il va rejoindre très vite Jaurès, donc il va passer au socialisme.
Nous allons maintenant entendre Thaddée Nathanson pour nous parler de la collaboration de Léon Blum à la Revue Blanche. C'est une émission de la chaîne nationale du 31 mars 1950 et ça sera suivi de Jean Amrouche s'entretenant avec André Gide dans un entretien sur la même chaîne du 1er janvier 1949.
Est-ce que vous pouvez nous dire, mon cher maître, de quel genre a été la collaboration de Léon Blum à la Revue Blanche?
On ne peut plus diverse au début. ce qui est à la fois des articles sur toutes sortes de sujets, des nouvelles, des pièces de vers, des essais de moralistes. Je me rappelle que le premier papier en 1892 de l'homme qui devait tenir une si grande place dans la politique française et même mondiale s'intitule « Des progrès de la politique en France ».
Apolitique, apolitique en un seul mot, n'est-ce pas ? Autrement dit, le contraire de politique.
C'est ça. Et traite de la désaffection du pays pour la politique. Il est dédié à son ami Maurice Barrès, député de Nancy. Léon Blum avait 20 ans.
Et à 20 ans, on a dit qu'il avait une impertinence, une séduction de page.
C'est vrai. On le voyait le plus souvent à la revue, dans Paris, entouré d'une vraie cour d'admiratrices et d'admirateurs. Ce sont les débuts d'une vraie carrière de séducteur. La réputation d'écrivain de Léon Blum date des nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, qui ne parurent à la revue qu'en 1900. Elles ont étendu et fortifié notre public. Léon Blum, qui aurait aussi bien su faire parler Saint-Simon ou Stendhal, s'amuse, avec une véritable maîtrise, à faire prononcer Goethe, dont il est plein, sur tous les sujets qui peuvent occuper le Paris des années 90. C'est à partir des nouvelles conversations que la cour qu'il traîne après soi n'est plus faite que de jeunes femmes ou de jeunes filles ou d'écrivains débutants. Il s'y mêle plus d'un écrivain arrivé. Non seulement Barrès et Gide qui arrivent au succès et dont Léon Blum est fort l'ami, mais jusqu'à Anatole France, alors au pinacle, et qui lui marque une déférence qui a été souvent remarquée.
À l'époque des nourritures, comme à l'époque de Palud, il a écrit sur ces deux livres.
Il a écrit certains articles remarquables, parmi les meilleurs qu'on ait écrits. Et je crois qu'il a été un des premiers à se rendre compte de la valeur de ces livres.
N'est-ce pas lui qui disait à propos des nourritures, peut-être à propos de Palud, qui avait écrit que l'un de ses livres jouerait par rapport au, dans le, la vie des générations suivantes, un rôle de même importance que Werther, par exemple?
Oui, ce que j'avais trouvé très exagéré, modestement. Je crois que c'est dans ces nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, c'est à propos de Palud qu'il disait cela. Et je fus fort surpris, car vraiment Palud avait passé, autant dire, inaperçu des contemporains.
Et Pierre Birnbaum, dans la première partie de notre émission, nous sommes arrivés en 14, et c'est, si je puis dire, la bonne année, car je crois que c'est finalement l'assassinat de Jaurès qui a fait prendre à Blum la décision finale de s'engager dans la politique.
On peut dire ça, ils sont très proches, très amis. Blum est l'héritier le plus fidèle de Jaurès.
Comment ont-ils fait connaissance ?
L'affaire Dreyfus, à nouveau. C'est-à-dire, à nouveau, les intellectuels. Jaurès et Blum vont devenir, pardonnez-moi l'expression, cul et chemise. Jaurès vient manger, dîne tous les soirs, enfin très souvent, dans l'appartement même de Blum. Ils sont extrêmement proches. Jaurès lui demande d'être candidat à la députation, dès, je crois, 1904, si je me trompe pas. Blum refuse, il a sa carrière littéraire, il refuse. Et ça n'est que plus tard, donc, qu'il sera député en 1919, si je me souviens bien.
Quelle est la différence d'âge, à peu près, entre Blum et Jaurès?
Une trentaine d'années, je dirais, mais il faudrait vérifier les dates.
Et en tout cas, 14 est aussi une année intéressante, parce qu'au moment même où il prend la décision de faire réellement de la politique, il faut dire aussi qu'il a, je crois, 45 ans à ce moment-là. Donc c'est assez tardif, d'une certaine façon, pour une entrée vraiment décidée en politique, non?
On ne sait pas très bien comment expliquer le virage de Blum, disons, des théâtres et des nouvelles. Les nouvelles, je reviens sur les nouvelles, elles sont très nombreuses et totalement inconnues. Très peu de personnes les ont jamais lues.
Elles sont bonnes ?
Elles sont bonnes, mais oui, on jubile de les lire. Blum s'imagine en train de draguer les femmes. Elles sont très nombreuses, ces femmes qu'il suit dans la rue. Je reviens à votre question. C'est aussi par les femmes, peut-être, que certains expliquent son virage vers le socialisme, puisque certains ont dit, est-ce vrai, c'est peut-être vrai, que Blum, vous le savez, entretient une relation amoureuse à partir de 1911, 1912, on ne sait pas exactement combien, avec Thérèse Pereira, Blum qui était l'apôtre du mariage, dénonçant la turpitude de l'adultère. Blum s'y livre lui-même.
Bah, il aimait tellement de mariages qu'il s'est marié trois fois.
Et il s'est marié trois fois, mais enfin la troisième, c'est parce que la seconde femme était décédée, donc ça n'a vraiment rien à voir. C'est ce que la première s'achète une ombre sur le personnage et sur ses écrits, puisqu'il a une très longue relation avec sa maîtresse, Thérèse Pereira, alors que sa femme, Lise, est encore vivante et souffre énormément de cette double vie qu'elle connaît. Il y a des lettres bouleversantes que je publie, qui sont là encore vraiment des lettres qui méritent d'être connues. Et donc Thérèse Pereira est une femme, au contraire, très engagée dans le socialisme. Alors certains disent que c'est elle qui l'a incitée à s'engager de manière plus vive dans le combat en faveur du socialisme. Et lorsque Lise va décéder, Thérèse Pereira va épouser Léon Blum et elle va devenir la camarade Pereira.
En tout cas, 1914, qui est donc l'année où il s'engage à peu près définitivement dans la politique, est aussi l'année où il publie un de ses livres littéraires les plus intéressants, qui est Stendhal et le bellisme, qui a été publié donc en 14 par la Revue de Paris, et qui est, Pierre Birnbaum, à mon avis, très intéressant parce que c'est le livre d'un homme de gauche sur Stendhal, qui est probablement un des seuls écrivains réellement de gauche de la littérature française, puisqu'il a toujours été pour La mort du roi, La révolution, etc. Et que Stendhal avait déjà été récupéré par la droite, et la droite la plus dure, et en particulier Barrès.
On a un conseiller d'État qui écrit sur de l'amour et la révolution sexuelle. Un peu plus tard, on a un personnage socialiste, toujours conseiller d'État, et qui publie un livre sur Stendhal, qui est un livre qui mérite encore aujourd'hui le détour, puisqu'il est considéré par tous les stendhaliens, il suffit de regarder la revue des études stendhaliennes, encore aujourd'hui, comme un livre essentiel des études stendhaliennes. Del Lito, par exemple, le dit explicitement dans plusieurs articles. Il y a une description. Au fond, Blum est très proche de Barrès, vous venez de le dire, du prince des lettres de l'époque. Ils sont très amis. Ils vont évidemment diverger. Ils ont divergé à l'époque de l'affaire Dreyfus. Blum devait aller voir Barrès pour recueillir son approbation. Barrès refuse de s'engager dans le camp de Dreyfusard. Donc, il y a une séparation entre Blum et Barrès qui date de l'affaire Dreyfus. Mais ils ont une adoration identique, mais qui est extrêmement différente, puisque Barrès va rejoindre le camp de l'extrême droite, Blum, au contraire, va rejoindre le socialisme, non pas révolutionnaire, mais tout de même très engagé. Alors, comment expliquer cet engouement de Blum pour Stendhal? Il en tire justement le contraire de Barrès, puisque Barrès a toute une théorie de l'enracinement. Blum, au contraire, voit dans les personnages de Stendhal l'image même de la liberté et toute sa vie de l'audace de l'acteur qui construit sa vie, qui l'apprend à bras-le-corps. Et toute sa vie, Blum, à nouveau, homme des lettres, est hanté jusque dans les prisons, jusqu'à Buchenwald. Il dit dans son journal « Je relis Stendhal, je relis Le Rouge et le Noir ». Blum est hanté par Stendhal. Dans sa prison à Charassol, en 42, 43, il s'identifie, on pourrait dire. Il est Lucien Levenne. Il est Julien Sorel. Par certains aspects, c'est assez étonnant de le dire, on peut voir dans ce socialiste qui va mener le peuple à la révolution, une quasi-révolution à travers le Front populaire, un homme qui a une vocation stendhalienne affirmée et, comme vous l'avez remarqué très justement, il voit dans Stendhal le républicain par excellence, mais aussi, non seulement le républicain par excellence, mais l'homme des duels. Et vous savez que Blum s'est battu en duel, et il déploie la même énergie, c'est-à-dire l'idée de la liberté de l'individu. Les héros stendhaliens sont les héros de l'audace.
Bah, d'ailleurs, il y a une phrase qui doit être assez faite pour se moquer de Barrès dans son livre et que je vous cite, qui est « Le déracinement des héros stendhaliens est un facteur d'énergie ».
Exactement.
Donc, il oppose à Barrès.
Exactement. Et on peut dire que, de même qu'il y a un rapprochement, vrai ou faux, je ne sais pas, entre Proust et Blum, il y a également un rapprochement, alors là, celui-là évident, dans certaines nouvelles entre Stendhal et Blum, puisqu'il y a une nouvelle de Stendhal, une nouvelle de Blum, excusez-moi, où il pastiche pratiquement le passage dont nous rêvons tous depuis notre adolescence, où Julien Sorel compte jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, je ne sais plus, pour saisir la main de Madame de Rênal. Et donc, dans ce passage magnifique, qui prouve l'audace, au fond, il faut s'engager, il faut y aller, il y a une nouvelle de Blum, exactement identique, où son héros, là aussi, il dit « j'attends que l'horloge ait sonné ses 10 coups ou ses 8 coups, je ne m'en souviens plus. Et il faut absolument que j'ai pris la main de Anne ou de Françoise ou de Marguerite, je ne me souviens plus.
Évidemment, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, au-delà des héros, un phénomène d'identification d'une certaine façon de l'outsider? Parce qu'après tout, Stendhal a été renvoyé de Polytechnique comme lui a été renvoyé de l'école normale. Stendhal ne vient pas tout à fait d'un milieu, évidemment, c'est pas un juif immigré, mais ou enfant d'immigré, mais quand même, il y a un côté outsider qui doit le toucher, non?
On peut même ajouter que Stendhal entre au Conseil d'État, exactement comme Blum, vous voyez. On peut multiplier les rapprochements entre la vie de Stendhal et celle de Blum, et ça fait de Blum vraiment un être qui appartient aussi à la littérature.
Bah, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de Buchenwald, une chose très frappante, et la liste, on a la liste de ses lectures à Buchenwald, et qui sont quasi exclusivement des livres de littérature. C'est Stendhal, Rousseau, Shakespeare, Alfred de Musset, La Rochefoucauld. Et d'ailleurs, à la sortie de la guerre, et je voudrais qu'on finisse par ça, si vous le voulez bien, il publie un livre qui est moins littéraire et probablement plus politique, mais très intéressant, et dont je me demande si ça n'est pas un utile contrepoint à L'étrange défaite de Marc Bloch, qui est devenu un livre quasi sacré d'une certaine façon et qui est à l'échelle humaine.
Alors, à l'échelle humaine, c'est l'humaniste qui triomphe. C'est, je dirais, le kantien qui triomphe.
Pardon, il faut dire que c'est un livre qu'il a écrit pendant la guerre en 1941, qui a été publié à la Libération.
Hein. Tout à fait. C'est un livre d'une très grande hauteur de vue qui dénote, au fond, une âme à nouveau presque tournée vers la raison. Et non pas vers la violence. En 1941-1942, il est enfermé, la milice le menace. C'est un texte qu'il écrit aussi en tant que juif. Enfin, et là aussi, le rapprochement avec Marc Bloch montre les similitudes et les différences.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins dans la contrition. Il y a une, si vous permettez, je vais vous citer une phrase qui je trouve frappante, qui est « Une calamité nationale se lie depuis l'origine des temps à l'idée d'un péché ou d'une faute avec ce développement naturel, contrition, expiation, réclamation. Les peuples comme les hommes sont toujours tentés de croire que l'événement qui atteint leur existence n'est jamais arrivé qu'à eux. » Il est d'une certaine façon plus rationnel que Bloch, non?
Il est, je dirais, plus rationnel que Bloch. Et si vous me permettez, je ferai le lien entre ce livre et son testament. Au fond, on a la même idée d'une sorte d'optimisme. Dans son testament, 3 ans après, à l'échelle humaine, il dit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple tourné vers le mal, il n'y a pas de race tournée vers le mal. Il appelle à une réconciliation et il appelle à... non pas au pardon, mais à une réconciliation des nations, alors même qu'il vient d'être sujet aux pires inquiétudes, puisqu'il a été enfermé à Buchenwald pendant 2 ans. Mais au fond, à l'échelle humaine, il est déjà en prison. Le testament, il est à Buchenwald depuis 2 ans. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un homme attaché à une morale kantienne, beaucoup plus qu'à une morale nationale, je dirais, beaucoup plus qu'à une défense d'une nation, beaucoup plus qu'à une défense des héros d'une nation.
Pour finir, Pierre Mirbaum, est-ce que vous diriez que le secret professionnel de Blum et de la littérature serait qu'il est plus un amateur qu'un écrivain, mais que, comme Mitterrand ou De Gaulle sous ce rapport, il fait partie d'une espèce d'hommes politiques qui ont donné une place éminente à la littérature et créant en cela et faisant partie d'une spécificité très française?
Je crois qu'il y a une spécificité d'un personnel politique qui appartient à une autre époque et à une époque malheureusement révolue.
C'était Secret professionnel, le 217e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de l'École normale supérieure. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Pierre Mine, recherche Ina Sophie Gillery. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.